On va reprendre rapidement là où on en était. Donc, on vous souvenez, épisode tragique. Je dirais le premier gros épisode où David a vraiment gaffé gravement. Il a volé la femme d'un de ses soldats d'élite. Elle est enceinte et il veut cacher sa faute. Donc ça, vous pouvez lire ça dans 2 Samuel 11. Sa stratégie, on a dit la dernière fois, est complètement diabolique. Parce que ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'arranger pour placer ce soldat qui s'appelle Uri à l'endroit où le combat est le plus violent. Ils étaient en guerre à l'époque avec les Ammonites. Et il va donner ordre par Joab, son chef de guerre, qu'on l'abandonne dans l'endroit le plus dangereux, qu'on le laisse seul. Et puis évidemment, il se fait tuer. Mais il se fait tuer aux mains de l'ennemi, donc tout le monde a les mains propres. C'est la faute des Ammonites. C'est bien vu, mais c'est diabolique. Et on avait remarqué la dernière fois que Satan a exactement la même stratégie envers Jésus. Il va le coincer quand il est tout seul, dans le désert, après 40 jours de jeûne, le mettre en danger, l'isoler, donc il est seul, et puis chercher à le tenter pour le frapper, pour le tuer, physiquement et surtout pour couper sa relation avec le Père. Et c'est une stratégie classique que l'ennemi utilise aussi avec tous les gens qui servent le Seigneur. Un jour ou l'autre, l'ennemi s'arrange pour qu'on soit dans une situation dangereuse, difficile. Il s'arrange pour nous isoler. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on s'isole. On parlera peut-être l'année prochaine, je pense qu'on démarrera peut-être Élie. Et Élie, le grand Élie, son gros problème, c'était le jour où il s'est isolé. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup l'humour de Dieu qui lui dit « Melon, Élie, il y a 5 000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou. » Voilà. Oui, on peut s'isoler et croire qu'on est effectivement seul, alors qu'en fait, il y a des tas et des tas de gens qui pourraient nous aider. Donc, attention à l'isolement. David, lui, ne se rend pas compte qu'il a été l'objet du même stratagème. Ce qu'il va faire, c'est ce que l'ennemi lui a fait. Il a profité qu'il était oisif, il n'était pas à la guerre, il était donc dans une situation dangereuse. Dangereuse aussi parce qu'il était au sommet de sa gloire et puis il se croyait arrivé. Toujours dangereux, hein? Et puis il était seul sur sa terrasse alors qu'il avait des enfants, des amis, des conseillers. Enfin, il y avait du monde. Qu'est-ce qu'il faisait tout seul à ne rien faire sur sa terrasse? Et puis il a été exposé à la tentation, il a été vaincu et sa relation avec Dieu a été coupée. Hein, c'est une façon de mourir hein, quand spirituellement notre relation avec Dieu est coupée. C'est un des pires trucs hein, de trouver sa relation avec Dieu coupée. Je comprends qu'il ait souffert et si vous lisez le psaume 32, vous verrez à quel point ça a été dur pour lui, cette période avant qu'il confesse son péché. Alors on avait vu aussi que David avait fait ce qui déplaît à l'Éternel. C'était la conclusion de Dieu. L'écrivain biblique dit David a fait ce qui a déplu à l'Éternel. Et on avait vu aussi que c'est sobre, hein, on aurait pu vraiment se mettre en colère, tuer quelqu'un pour lui piquer sa femme, c'est pas très élégant, hein, c'est pour nous c'est terrible. Et la phrase est toute simple, il a fait ce qui déplaît à l'Éternel. Et notre souci dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit, c'est effectivement de plaire au Seigneur, de plaire au Seigneur. C'est notre priorité en tant que chrétien. Et c'est important à chaque fois de se poser la question. On avait dit ça la dernière fois, que ferait Jésus à ma place? Est-ce que ce que je fais, ça plaît à Dieu ou pas? Oh, je ne dis pas qu'on peut toujours répondre précisément, hein, mais c'est bien de se poser la question. Alors, on avait remarqué aussi, je résume ce qu'on avait vu, Satan attaque ce que nous sommes, notre personne, ce que nous sommes. Par contre, Dieu, lui, met le doigt sur ce que nous faisons. Il met le doigt sur ce qui ne va pas, ce que l'on fait, c'est-à-dire nos fruits. Hein, il ne se préoccupe pas de ce qu'on dit, etc. Parce que parfois la parole ne correspond pas à l'action, mais il est soucieux de ce qu'on fait. Et il met le doigt là-dessus. Et il ne remet pas en question David en disant tu es un meurtrier, tu es. Pourtant, voilà, il avait tué quelqu'un. Mais voilà, Dieu met le doigt sur ce qu'on a fait. Et l'homme, on avait signalé la dernière fois, accuse ou excuse les choses en fonction de son caractère, de sa culture. Hein, dans certaines cultures, ah oui, mais c'est acceptable de faire ça. Dans d'autres, ça ne l'est pas. Et alors, on va juger en fonction de notre culture. On va juger en fonction de notre âge aussi. des choses que, sur lesquelles on ne passera pas quand on a 15 ans. Et puis, bah oui, à 50 ans, bof, c'est voilà. Donc voilà, il faut faire attention que les critères qu'on a en tant que chrétien, c'est pas notre culture, c'est pas notre âge, c'est pas notre milieu social, c'est est-ce que ça plaît à Dieu ou est-ce que ça plaît pas à Dieu. Et ça, c'est très difficile, parce qu'on est quand même imprégné de notre culture familiale, notre culture intellectuelle, notre culture nationale. Enfin, on est imprégné, hein, on n'y peut rien, on est humain. Donc, quand même, faire un effort parfois pour dire, Seigneur, au fait, moi, je m'en fiche de ce que la personne a fait ou de ce, voilà. Mais est-ce que ça te plaît? Et ça, c'est différent. Voilà. Ou bien alors, je suis furax, voilà, est-ce que c'est inacceptable? Mais toi, Seigneur, qu'est-ce que tu penses d'après ta parole? Et notre critère, c'est la parole de Dieu, hein, dans son ensemble. Alors, on avait remarqué aussi que Dieu est patient. Parce qu'il s'est passé plusieurs mois avant qu'il envoie le prophète Nathan pour tirer les oreilles de David. Plusieurs mois. Alors que le bruit avait certainement couru à la cour, chez les courtisans, dans l'armée, etc. Il attend. Et qu'est-ce qu'il attendait visiblement? Que David confesse et renonce. Il ne l'a pas fait. Il était pourtant rongé, hein, relisez le psaume 32. Il dit, oh là là, il avait du mal à dormir. Et non, Dieu est patient. Et puis, contrairement à ce que moi j'aurais imaginé, et c'est pour moi un signe d'authenticité de la Bible, Nathan n'arrive pas avec un fouet ou avec des menaces. Hein, si, attention, etc. Et il arrive en disant, je vais te raconter une histoire. Et ça, j'aime tellement ça de la part de Dieu. Surtout si vous avez une image d'un Dieu vengeur, d'un Dieu accusateur, d'un Dieu qui vous contraint des choses et qui vous prend de force, etc. Arrêtez, arrêtez, c'est faux. Regardez dans la Bible la bonté de Dieu. J'avais dit la semaine dernière, hein, avec Adam. Adam avait tout fichu en l'air. Qu'est-ce que dit Dieu? Première parole, où es-tu, Adam? Où es-tu? Et je pense que, voilà, nous, on a parfois une image d'un Dieu, le Dieu de justice, mais alors, terrible. Attention, oh, il est juste, on va le voir, hein, il rigole pas. Mais il est bon, il est patient. Et il attend qu'il y ait un retour de notre part. Donc, il envoie Nathan qui commence par lui raconter une histoire. Évidemment, c'est une petite parabole qui va servir à faire réfléchir David. Dieu est un Dieu qui veut nous faire réfléchir. Et tout à l'heure, je crois que c'est Édouard qui a cité Joseph avec ses frères. Et bon, je l'ai fait dans le passé, hein, il y en a peut-être qui s'en rappellent, mais cette histoire de Joseph m'avait énormément touchée parce que, en fait, Joseph, on pourrait croire qu'il est méchant avec ses frères, en fait, non. Tout ce qu'il fait, il les fait réfléchir. Il les met dans la même situation en gardant un frère en otage, hein, en prison, et pendant ce temps-là, les autres commencent à discuter. Dieu nous punit parce qu'on a fait du mal à Joseph, etc. Ils commencent à rentrer en eux-mêmes et à reconnaître les bêtises qu'ils ont faites. Et Dieu est un Dieu qui aime faire réfléchir. Hein. Faut pas avoir peur de réfléchir. Condition de réfléchir selon la parole de Dieu et pas avec notre sagesse humaine, évidemment. Donc il le fait réfléchir et il le place en juge. Lui qui était l'agresseur, Dieu le met dans une situation face à cette parabole. Il lui fait changer son point de vue. Ah, tu as le point de vue de l'agresseur. Maintenant, tu vas avoir le point de vue de la victime et mon point de vue à moi, Dieu. Et là, avec ce point de vue-là, évidemment, ben, il est horrifié. Quoi? Mais quelle injustice! Comment cet homme a pu voler l'unique brebis d'un pauvre alors qu'il avait des troupeaux? Mais c'est inadmissible. D'abord, il faut tuer cet homme. Oh là, il va loin, lui. Hein, il n'hésite pas, hein, quand il est juge. Et puis, la parole extraordinaire de Nathan. C'est pareil, moi j'admire le calme de Nathan. Parce qu'il aurait pu dire, mais il n'est pas trop tôt depuis des mois que tu désobéis à Dieu. Il lui dit, tu es cet homme. Là aussi, pour moi, il n'y a que Dieu qui peut faire ça pour donner la patience à un prophète, à Nathan. Tu es cet homme. Tu es cet homme que tu condamnes. Tu es cet homme qui a volé le pauvre, le plus pauvre que lui. Tu es cet homme qui a tué, etc. Tu es cet homme. Et ça, c'est magnifique. Nathan a été extrêmement courageux. On va lire juste quand même en rappel, pour ceux qui n'ont pas entendu le début, versets 7 à 12. Je ne suis pas au bon endroit. Alors Nathan dit à David, « Cet homme-là, c'est toi. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. C'est moi qui t'ai conféré l'onction pour que tu sois roi sur Israël. Et remarquez, en passant, on va juste lire le texte, remarquez que Dieu refait la même chose qu'il a fait quand il a refusé à David de construire le temple. Simplement, il a dit non, ce ne sera pas toi, ce sera ton fils. Ce n'était pas une punition, simplement, il a dit ce sera comme ça. Et il refait la même chose, il lui rappelle qui est Dieu. C'est moi qui t'ai conféré l'onction pour que tu sois roi sur Israël. C'est moi qui t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai donné la maison de ton Seigneur. J'ai placé sur ton sein les femmes de ton Seigneur et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et puis une petite pointe d'humour. Oui, Dieu a de l'humour, je trouve. Et si cela ne suffisait pas, j'y ajouterais encore. Si franchement ça ne te suffit pas, tout ce que j'ai fait pour toi, qu'est-ce que tu veux de plus ? Ouais, une petite pointe quand même d'humour. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Hein ? Aller voler la femme de quelqu'un d'autre alors que tu as eu tout ce que tu voulais. Alors, il replace David, comme la dernière fois, on avait commenté là-dessus. Qui est Dieu ? Qui tu es ? Bah, pas grand-chose en face de Dieu. Tu me dois tout en quelque sorte. Et nous aussi, on doit tout à Dieu. Évidemment, parfois, on se dit, oui, mais attends, j'ai beaucoup travaillé à l'école ou j'ai beaucoup travaillé dans mon boulot pour obtenir ma promotion et puis j'ai économisé pour avoir ce que j'ai, etc. Bien sûr, mais qu'as-tu que tu n'aies reçu, comme dit la Bible ? Hein ? On est allé dans le sens du Seigneur en faisant ce qu'on pouvait, mais honnêtement, il y a des gens qui font ce qu'ils peuvent et qui ne s'en sortent pas. Donc, on peut remercier Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Qui est Dieu et qui on est ? On n'est pas grand-chose. Un souffle qui disparaît. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler pour ses examens. Hein. Je me fais bien comprendre de la jeunesse. Non, il faut faire notre part. Mais c'est vrai qu'une fois que vous avez fait votre part, vous priez pour que Dieu vous aide dans vos examens. Parce que Dieu a un plus extraordinaire. C'est Dieu qui parfois va permettre que ce que vous avez révisé le plus soit présenté ce jour-là à l'examen. Hein ? Ça, combien de fois ? On a tous vécu ça un jour ou l'autre, hein ? Et même plusieurs fois. Donc, mais il faut faire sa part. Si vous n'avez rien révisé du tout, ben, voilà, je ne vous dis pas la suite. Voilà. Donc, on sait, il rappelle à David, qui tu es, David, mais reprends ta place par pitié. Qui tu es ? Moi, je suis Dieu. Toi, tu me dois tout. Bien, alors... Pourquoi donc as-tu méprisé la parole du Seigneur ? Ah, ça m'a intrigué ce verset. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole du Seigneur ? On peut dire, mais il n'a pas méprisé la parole du Seigneur. Dieu ne lui avait rien dit. Qu'est-ce que ça, il n'a pas méprisé ? Il a fait quelque chose, d'accord, mais il n'a pas méprisé la parole du Seigneur. On pourrait dire, ça n'a rien à voir. D'un point de vue humain, il a juste suivi ce qu'il avait envie de faire. Ce n'est pas du mépris de Dieu. Vous savez que même en tant que chrétien, on peut agir sans se rendre compte que Dieu voit ça comme un mépris de sa parole. Et si on a cette conscience, je crois qu'on est beaucoup plus prudent. Parfois, on peut faire des choses ou dire des choses et le Seigneur va nous dire « Mais là, tu as méprisé ma parole. Oh, Seigneur, jamais j'oserais faire une chose pareille. Hein? » Mais oui, c'est du mépris de la parole de Dieu quand on fait à notre tête et qu'on n'obéit pas à sa parole. Et moi, ça m'a frappé un petit peu sur le coup, parce que ma réaction, c'était de dire, bah, attends, qu'est-ce qu'elle vient faire, là, la parole de Dieu, le mépris de la parole ? Il a juste fait ce qu'il avait envie de faire. Et il y a ce verset qui dit, on ne se moque pas de Dieu. Galates 6, verset 7. Chaque fois qu'on fait ce qui lui déplaît, surtout quand on le fait consciemment, en toute connaissance de cause, on est dans le mépris de sa parole. Et ça fait réfléchir, hein ? Ça m'a fait réfléchir, ce mépris. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole du Seigneur ? Là aussi, Dieu pose une question. Moi, j'aime bien. Dieu, il pose des questions. Même dans un cas aussi grave, il pose une question. Pourquoi as-tu méprisé la parole du Seigneur en faisant ce qui lui déplaisait ? Alors après, Dieu va montrer qu'il était là, qu'il a tout vu et qu'il sait tout. Et que ce n'est pas la peine que David continue à se cacher. Et regardez, il détaille tout. Il était présent. Tu as abattu par l'épée Uri le Hittite. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Tu l'as tué par l'épée des Ammonites. Il sait tout. Ah oui, mais tu sais, j'ai bien compris. Hein, d'accord, c'est pas toi qui l'as tué de ta main, mais hein, tu as profité des ennemis. Maintenant que tu m'as méprisé, deux fois, hein, parce que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour en faire ta femme, ainsi par le Seigneur, je suscite un malheur contre toi du sein de ta maison. Je suscite un malheur contre toi. Je prendrai tes propres femmes sous tes yeux pour les donner à l'un de tes proches. Il couchera avec tes femmes sous les yeux de ce soleil. Toi, tu as agi en secret, mais moi, je ferai ça à la face de tout Israël et à la face du soleil. Là, là, Dieu n'y va pas de main morte. Et là, on est tous un petit peu, crispés là, sur ce texte. Oula, Dieu se fâche. Dieu est patient. Mais David avait passé deux limites. D'abord en tuant, etc. Et la deuxième limite en attendant, au lieu de confesser à Dieu. Et là, Dieu se fâche. Alors je pense qu'il ne faut pas qu'on attende que Dieu se fâche. Une chose est sûre, c'est qu'il aime le pécheur. Il continue à aimer David. Mais David va avoir sa fessée quand même. Il y a des conséquences à ce qu'il a fait. Et puis, là, on voit un principe qui est terrible dans la vie. Hein, de toute façon, même les non-chrétiens le savent. Vous savez, c'est Osée 8, verset 7, dit « Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront l'ouragan ou la tempête, suivant les traductions. » Proverbe 28, 8 dit « Celui qui sème l'iniquité, la moissonne. » Ce sont des lois humaines d'ailleurs, des lois divines, mais des lois humaines aussi, on le sait. Et d'ailleurs, le proverbe français dit bien « Qui sème le vent ?» récolte la tempête. Il vient de la Bible, comme beaucoup de proverbes. Les gens ne savent pas, mais ça vient de la Bible. Lui, il a agi en secret. Mais ses malheurs, tous seront là en plein jour, devant tout le monde. Et ce que j'ai remarqué souvent, c'est quand on moissonne des choses qu'on a fait de travers, elles sont souvent multipliées par 2, 3, 10. On sème, effectivement, vous semez une graine, vous avez un épi, et il y a plein de graines dedans. Donc, on récolte plus que ce qu'on sème, en général. Hein. Heureusement, d'ailleurs, dans certains cas. Mais là, dans ce cas-là, ça fait mal. Et quelle va être la réaction de David? Alors, on l'a vu dimanche dernier. Philippe nous a fait travailler le psaume 51. « J'ai péché contre le Seigneur. » Là, il ne discute plus. C'est fini. « J'ai péché contre le Seigneur. » Et il reconnaît 100%, il n'y a pas de souci, « J'ai péché contre le Seigneur. » Et Nathan lui répond, « Le Seigneur laisse passer ton péché, tu ne mourras pas. » Ah, tiens, c'est marrant parce que lui, il avait demandé la mort hein, pour le monsieur qui avait volé le mouton. Mais il dit non, tu ne mourras pas. Il ne mourra pas, je pense aussi, parce qu'il a reconnu. Si on compare avec Saül, par exemple, et je crois que Philippe l'a fait aussi la semaine dernière, Saül n'a pas voulu reconnaître, il a toujours accusé les autres. C'est la faute du peuple, c'est la faute de ci, c'est la faute du temps qui a passé, c'est la faute de ça. Il n'y avait pas moyen qu'ils reconnaissent. Et ça, c'était problématique pour Saül. Il est mort à la guerre, son fils est mort, son autre fils a été assassiné. Voilà. Il y a eu vraiment toutes sortes de problèmes parce que Saül n'a jamais voulu dire « j'ai désobéi à Dieu ». Tandis que là, c'est immédiat, David confesse. Et Nathan lui répond, « Le Seigneur laisse passer ton péché, tu ne mourras pas. Mais, parce que tu as bafoué le Seigneur, voyez encore cette notion de mépris, en cette affaire, le fils qui t'est né mourra. » Puis Nathan s'en alla chez lui. Alors là, moi, ce verset, je vous avouerai qu'il a eu du mal à passer. Le fils qui t'est né mourra. Il avait quelques mois, visiblement. C'est pas évident, hein? Alors, soyons prudents avec ce genre de verset, encore, parce que surtout, il ne faut pas le prendre dans l'autre sens. Jamais. C'est-à-dire, oh, ils ont perdu un bébé, ils ont donc péché. Non, alors, surtout pas. Ce genre de jugement, il est entre les mains de Dieu et il nous est totalement interdit de tirer des conclusions de ce genre. C'est Dieu. La Bible dit, à lui appartient... c'est à moi qu'appartient la rétribution. Hein. Donc on n'a pas, c'est pas un sujet de conversation et c'est pas un jugement qu'on peut tirer. Hein. Parce que si tous les gens qui ont perdu un enfant avaient fait autant de mal que David, ce serait grave. Hein. Non, c'est pas parce qu'on perd un enfant c'est la punition de quelque chose d'extrêmement grave qu'on a caché. Hein. Il y a eu trop de jugements dans les milieux chrétiens là-dessus. Attention, attention, surtout, on reste dans le silence en face de ces... C'est déjà assez douloureux. Je pense que c'est très important de se rappeler de ça. Alors effectivement, l'effet boomerang de son péché, il est là. Lui, il a mal agi envers la femme d'un autre en secret. Et effectivement, quelqu'un va prendre toutes les femmes du palais en public sur la terrasse du palais. Il a tué Uri par l'épée des ennemis d'Israël. Et puis, il va y avoir dans sa vie, Philippe l'a dit la semaine dernière, tout un tas de meurtres en série, on va dire, de meurtres en série dans sa famille. Alors, Amnon par Absalom, Absalom par Joab, et puis Adonijah par Salomon. Donc, ça fait beaucoup. Hein. C'est comme si David avait ouvert une porte à l'ennemi. J'aime pas l'idée de voir ce Dieu en colère qui va assassiner l'enfant de David ou qui va permettre, etc. Je pense que quelque part, David a ouvert une porte à l'ennemi. Et l'ennemi s'y est engouffré. Et quand on désobéit à Dieu, on ouvre une porte. Alors parfois c'est une toute petite porte, parfois c'est une grande porte. Là, il a vraiment ouvert le grand portail. Mais j'aime bien cette image, c'était une image que Ricardo utilisait souvent pour ceux qui l'ont connu. J'aime bien cette image parce que c'est vrai. Par nos actions, par nos paroles, par des choses qui déplaisent à Dieu, on peut ouvrir des portes à l'ennemi. Donc attention. Mais j'essaie quand même d'éviter de dire « Ouais, c'est Dieu qui attendait là avec son bâton. » Dire « T'as vu ce que t'as fait ? Ben, tu vas voir ce que tu vas prendre. » Non. C'est pas l'image qu'on a de Dieu dans la Bible. Simplement, ben, nous, quand on fait une bêtise, on ouvre la porte. Je dis toujours, hein, si je sors sous la pluie sans parapluie, je serai mouillée, trempée. Je vais peut-être même attraper une pneumonie. Voilà. Et Dieu n'est pour rien dans l'histoire, là. Bon, là, c'est clair que Dieu a annoncé ces choses parce qu'il avait ouvert la porte à l'ennemi. Hein, je pense qu'il faut être juste. Et je m'appuie un peu sur ce verset de Éphésiens 4, 27. « Ne donnez pas accès au diable. » Je l'ai relu hier soir. « Ne donnez pas accès au diable. » Et j'aime bien la version anglaise qui donne comme mot « foothold ». C'est-à-dire, on donne prise. C'est la prise de l'alpiniste, vous voyez, où il met son pied, voilà. Et c'est ça, c'est vraiment la prise de l'alpiniste. On ne donnait pas accès au diable. Donc, par nos comportements, par nos paroles, soyons prudents de ne pas donner accès. Déjà, lui, il cherche tout le temps un accès. Donc, si en plus, on lui fait cadeau, c'est sûr, ça ne va pas. Heureusement, David s'est repenti. Hein, et comme on dit, comme on l'a vu, comparé avec Saül, il y a une réelle différence. Par contre, quand on lit ce texte, on est quand même un peu frappé et c'est douloureux. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Pourquoi un bébé ? Dans ces cas-là, je m'appuie sur ce verset qui dit « Les choses cachées sont à l'Éternel ». On ne comprend pas forcément pourquoi un bébé. On le comprend du côté de la punition de David, mais on le comprend moins du côté de l'enfant. « Les choses cachées sont à l'Éternel ». Je pense qu'on va en rester là. Par contre, il y a plus de choses dans le texte qui suit. Aujourd'hui, Jésus a payé pour nos péchés à la croix. On a un avantage par rapport au temps de David, c'est que Jésus est venu pour nous racheter, pour nous pardonner. On peut confesser nos péchés et reprendre une vie nouvelle. Et vous savez que souvent le matin, une fois que mon message est prêt, je prie encore et je dis « Seigneur, quel est le message fondamental pour ce matin ?» Et puis j'arrêtais pas de chanter toute la semaine. Vous savez, les chants, je chante pas très bien, mais les paroles me plaisent. Quand on dirigeait le groupe de jeunes à l'église de Mantes, il y a quelques années, on avait appris ce chant avec le groupe de jeunes et on allait dans les rues et on le chantait. Et on témoignait aux gens et ça marchait bien à cette époque-là. Et je me souviens d'une dame qui était dans un immeuble et elle était au balcon et nous a écouté chanter. Quand on a vu qu'elle nous écoutait, on est resté devant cet immeuble, on a continué à chanter. Et un des chants qu'on chantait, c'était, alors il me manque un peu de paroles, mais il y en a peut-être qui vont les retrouver. Tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Tu peux naître de nouveau, voilà. Je cherchais le début, voilà. Et toute la semaine, j'ai chanté ça. Et à un moment, le Seigneur m'a dit, mais enfin, qu'est-ce que tu chantes depuis le début de la semaine ? Tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro. Alors, je ne connais pas tout le monde ici, mais je pense que si ça vous est arrivé d'être dans la situation de David, en fait une bêtise, grosse, petite, moyenne, peu importe, de se dire « c'est foutu, j'ai gaffé, etc. » Non, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée, repartir à zéro avec Jésus pour berger. Et c'est un petit peu ce qui est arrivé à David quand même, hein, Dieu l'a conduit, Dieu l'a guidé, mais nous, en plus, sous la nouvelle alliance, on peut tout recommencer et repartir à zéro. Il ne faut pas se bloquer parce qu'on a fait une bêtise. Il ne faut pas se bloquer parce qu'on a mal agi. Il ne faut pas se bloquer. David a dit, ben, j'ai péché contre le Seigneur. Et le Seigneur l'a gardé roi, ne l'a pas fait mourir. Il y a eu des conséquences. Dieu n'efface pas toujours les conséquences. Hein, si, je sais pas, moi, si vous mettez le feu à quelque chose, ben, parce que vous êtes en colère, admettons, bien sûr, on va dire, si vous êtes en colère et vous prenez votre plus belle assiette et que vous l'achetez par terre, bah, elle est cassée, hein, Dieu ne va pas vous redonner, il va vous remettre les morceaux ensemble. Bon, il y a des conséquences, mais on peut quand même tout repartir à zéro. J'avais cette phrase tout le temps, repartir à zéro. Voilà. Ne nous laissons pas bloquer parce qu'on a fait une bêtise, parce qu'on a cassé quelque chose, etc. On peut repartir à zéro avec le Seigneur. Et ça, on le voit avec David, vous allez voir. Alors, c'est un texte très, très bizarre. Parce que David va complètement à l'envers de ce qui est courant, quoi. Complètement, à l'époque. Voilà. Donc, on va lire au verset 15. « Le Seigneur frappa l'enfant que la femme du riz avait donné à David. Il tomba malade. David rechercha Dieu pour le garçon et se mit à jeûner. » Là, on voit que David a changé de cœur. Hein. Il va jeûner. Il ne cache pas son problème. Il ne reste pas à marronner dans son coin. David reconnaît son péché. Il s'est repenti. Dieu a épargné sa vie. Mais quand l'enfant est malade, il va vers le Seigneur. Et on va lire la suite. « Rentré chez lui, il passait la nuit couché par terre. » Pour un roi, quand même. Hein. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour qu'il se relève de terre, mais il ne voulut pas. Il refusa de manger quoi que ce soit avec eux. Le septième jour, l'enfant mourut. Les gens de la cour de David avaient peur de lui annoncer que l'enfant était mort. Ils disaient, « Oh, lorsque l'enfant était encore en vie, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment pourrions-nous lui dire, l'enfant est mort, mais il va vraiment mal réagir ?» David s'aperçut que les gens chuchotaient entre eux. Et il comprit que l'enfant était mort. Il leur demanda, « L'enfant est-il mort ?» Ils répondirent, « Oui, il est mort. » Alors David se relava de terre, il se lava, se parfuma, changea de vêtements, puis il se rendit à la maison du Seigneur, toujours. Hein, vous voyez, maintenant, il a renouvelé sa communion avec le Seigneur. Et il se prosterne. Bon, il aurait pu rouspéter. Hein. Et c'est là qu'on voit le cœur de David. Il aurait pu dire, mais Seigneur, cet enfant était innocent, pourquoi tu l'as repris, etc. Enfin, il aurait pu être dans la révolte. Hein. Nous, humains, je pense qu'on est vite dans la révolte. Et lui, il va dans la maison du Seigneur, il se prosterne. Il rentra ensuite chez lui et demanda qu'on lui serve un repas. Il mangea. Les gens de la cour lui dirent, mais qu'est-ce que tu fais là? Quand l'enfant était vivant, tu jeûnais, tu pleurais pour lui. Maintenant qu'il est mort, tu te lèves et tu manges. Il répondit, j'aime beaucoup sa réponse. Lorsque l'enfant était encore en vie, je jeûnais et je pleurais, car je disais, qui sait si le Seigneur ne me fera pas grâce et si l'enfant ne vivra pas. Ah, David savait que Dieu est un Dieu de grâce. Et vous savez, ce psaume, car sa miséricorde dure à toujours. Il a une bonne image de Dieu, David. Et il faut qu'on compare avec notre image à nous. Quelle est mon image de Dieu? David avait une bonne image de Dieu. Qui sait s'il ne va pas faire grâce? Qui sait s'il ne va pas faire grâce? Malgré le jugement, malgré ce qu'il a enduré. Hein. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir? C'est moi qui irai le rejoindre. Lui ne me reviendra pas. Et là, on a un texte fantastique, 1000 ans avant Jésus, c'est important, qui nous assure de la vie éternelle. Puis-je le faire revenir? C'est moi qui irai le rejoindre. Lui ne me reviendra pas. C'était clair dans le cœur d'un homme de Dieu comme David que l'éternité, dans l'éternité, on vit et qu'on se retrouvera dans l'éternité. Et ça, c'est important. Et ça m'a fait penser à une petite histoire que maman racontait. Maman est venue au Seigneur parce qu'elle a perdu son frère à la guerre. Elle n'avait qu'un seul frère et ils étaient presque comme des jumeaux. Ils étaient nés à très peu de mois d'écart et ils étaient ensemble tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc ma mère jouait à des jeux de garçons aussi et tout. Enfin, ils étaient tout le temps ensemble. Et il est mort à la guerre. Et ça a été une catastrophe pour ma mère. Et là, elle a cherché Dieu. Et elle n'avait pas encore lu ce texte. C'est ça qui m'a frappée en pensant à ce texte. Et elle commençait à s'approcher du Seigneur. Et puis, elle a fait un rêve où elle voyait son frère et elle voulait aller vers lui. Et son frère lui disait, tu ne peux pas venir vers moi, mais tu ne peux pas venir vers moi maintenant. Moi, je ne peux pas revenir, mais toi, tu viendras vers moi. Tu me rejoindras. Et évidemment, ça l'a énormément consolée parce qu'elle commençait à s'approcher du Seigneur, elle a donné son cœur au Seigneur, etc. Et quand j'ai vu cette phrase, je me suis dit, mais elle n'avait certainement pas eu le temps encore de la lire, même si ma mère lisait beaucoup sa Bible, mais voilà, je ne crois pas qu'elle avait eu le temps de lire cette phrase. Donc c'était vraiment une parole du Seigneur qui l'a beaucoup consolée et qui nous console tous quand on perd quelqu'un. Hein, c'est de dire, c'est vrai que nous, on ne peut pas, mais un jour, c'est nous qui les rejoindrons. C'est important, cette assurance de la vie éternelle. Très, très important. Et que ce soit déjà là, 1000 ans avant Jésus, c'est parlant, hein ? C'était clair dans le cœur de David, malgré sa souffrance. Voilà, donc ça, je voulais insister là-dessus. Donc, voilà, malheureusement, ce que David avait semé, il le récolte, mais il ne se retourne pas contre Dieu. Il ne rentre pas dans une révolte avec la sagesse humaine. Et oui, et pourquoi, etc. David connaît Dieu, il a expérimenté sa grâce et son pardon. Et j'aime beaucoup cette phrase qui dit « Qui sait si le Seigneur ne me fera pas grâce ?» Et parce que c'est vrai que dans la Bible, il arrive que Dieu change d'avis. Ah ah ! Eh oui, dans ce sens-là. C'est-à-dire que si la personne se repent, Dieu parfois change d'avis. Et 2 Chroniques 7:14, vous le connaissez tous par cœur, « Si mon peuple s'humilie, alors... » Voilà. Eh oui. Alors, pourquoi il a arrêté de prier quand l'enfant est mort ? Eh bien, moi, ça me fait penser à ce que John Wimber nous disait toujours, notre responsabilité est de prier tant que les gens sont vivants. On va dire, ah ben oui, mais peut-être que Dieu veut qu'il meure, etc. On ne discute pas, il est vivant, je prie. Après, c'est Dieu qui fait ce qu'il veut. Et si la personne guérit, ce n'est pas grâce à moi. Et si la personne meurt, ce n'est pas de ma faute. J'aimais beaucoup ces citations parce que ça m'a beaucoup aidée dans la prière pour les malades. Voilà. Et tant que les gens sont vivants, eh ben notre responsabilité à nous, c'est de prier. Et Dieu fera ce qu'il veut. Mais dire, ah oui, mais peut-être que Dieu ne veut pas, alors ce n'est pas la peine que je prie. Mais qu'est-ce qu'on en sait de ce que Dieu veut ? Parfois, on ne sait pas. Donc, on prie, point. Dieu a dit, prier pour les malades. Il n'a pas dit, prier pour les malades. Si vous pensez que peut-être... Non, 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 on prie. Après, c'est Dieu qui décide. Et là, nous, on se soumet. Donc, voilà. Ça a résolu mes gros problèmes par rapport à la prière pour les malades. Alors... Les gens de l'entourage de David, ils ont peur parce qu'ils n'osent pas lui annoncer, parce qu'ils ne se rendent pas compte que David avait ce cœur. Psaume 51, verset 6, Philippe l'a lu la semaine dernière, « Tu seras juste dans ta sentence. » Il avait confiance que Dieu était juste. Mais il avait quand même cet espoir de grâce. Et j'aime bien son attitude. Qui sait si Dieu ne va pas faire grâce ? C'est bien, c'est bien. Dieu ne fait pas de différence. La loi est la même pour tous. Et je pense, et certains théologiens pensent aussi, que Dieu voulait pas faire de différence. Il voulait aussi faire une exemplarité. Il n'allait pas ne rien faire pour le roi, parce que c'était le roi et qu'il avait un bon cœur, etc. Il y a un moment où, voilà, il y a la notion d'exemplarité qui est importante. Peut-être, hein, c'est pas impossible. Parce que tout le monde était au courant et Dieu voulait aussi montrer au peuple qu'il était un Dieu juste, tout en pardonnant à David et en lui laissant la vie. Et je pense à nous tous, attention de ne pas nous laisser écraser par la culpabilité. Quand on fait face à une attaque de Satan, attention de ne pas se laisser écraser. Et attention aussi de reconnaître que Dieu nous corrige par des circonstances difficiles. Il nous corrige. Hein, les jeunes, si vous ne révisez pas du tout votre examen, la correction, elle ne se fera pas attendre. Hein. Voilà. Dieu nous corrige. Mais si vous avez travaillé et que vous ratez quand même, ne vous inquiétez pas, il y a certainement une autre raison. Mais si vous n'avez pas travaillé, c'est sûr que Dieu vous corrige. Et je suis convaincue aussi que quand vous avez une contravention parce que vous avez roulé trop vite, je suis convaincue aussi que c'est une correction. Et Dieu ne vous épargnera pas. Et ma mère disait toujours... Quand on est chrétien, Dieu est plus exigeant avec nous. Billy Graham disait, quand vous faites des excès de vitesse, Dieu sort de la voiture. Voilà. Mais voilà, vous comprenez mon point de vue là. C'est un point important. Alors, donc David va se lever, changer de vêtements, se rendre à la maison du Seigneur et se prosterner. J'aime ce passage. Et il est bien illustré dans tout ce que Philippe vous a dit la semaine dernière sur le psaume 51. Alors, son comportement était complètement à l'envers de la coutume. Une fois que les gens mouraient, c'était 2 ou 3 jours de jeûne, on payait même des pleureuses, etc. Hein ? Vous voyez que Dieu va souvent à l'envers de nos coutumes humaines. Ça, c'est important. Normalement, il fallait prendre le sac et la cendre pendant 2 ou 3 jours, se lamenter. Ce qui fait que les gens sont choqués. Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu vas complètement à l'envers de nos coutumes. Bah oui, parce que lui, il avait la culture du royaume de Dieu déjà. Il pensait vraiment que Dieu pouvait revenir de son jugement. Il connaît la grâce de Dieu. Mais il va reprendre une vie normale. Mais moi, ce qui me frappe là, pour conclure, c'est qu'il accepte avec humilité le jugement de Dieu. Mais ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Il se soumet à la discipline divine et accepte la réalisation de ce que Dieu lui avait annoncé. Et malgré tout, il renouvelle sa confiance en Dieu. Il sait qu'il va avoir des problèmes, qu'il a semé des trucs qu'il va récolter, mais il renouvelle quand même sa confiance en Dieu. Ça me fait penser à Ézéchias, je crois, hein, qui voulait pas mourir, qui a prié Dieu alors que Dieu lui avait annoncé qu'il allait mourir. Puis il a prié. Et puis, Dieu lui a redonné 15 ans. Et je crois que voilà, parfois Dieu fait grâce. Dire qu'il les a bien utilisés ces 15 ans, ça serait à revoir. voilà, donc 1000 ans avant Jésus, David est persuadé qu'il retrouvera son enfant dans l'éternité. Le salut de l'enfant, c'est un peu évident, hein, Dieu est un Dieu juste. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question, bah oui, mais il n'a pas eu le temps de donner son cœur à Dieu, etc. Dieu est un Dieu juste. Attention, si vous vous posez ce genre de questions, il faut rester sur le fait que Dieu est un Dieu juste. Et la preuve, puisqu'il dit, il le retrouvera. Hein, donc c'est clair. La vie ne s'arrête pas à la mort, elle va continuer dans l'éternité. Je pense qu'on va s'arrêter là. J'ai compris, tu tousses. Dis-moi pourquoi tu tousses. C'est un sketch, hein, voilà. Donc, soyons encouragés. Il y a eu punition dure, il y a eu décès, il y a eu des promesses de moissonner des choses difficiles. Mais le cœur de David est resté attaché au Seigneur, dans l'humilité. Et il ne faut pas s'arrêter. Il ne s'est pas arrêté là. Et il ne faut pas s'arrêter. Une fois qu'on a fait ce que Philippe a enseigné la semaine dernière, on s'est repenti, etc., il ne faut pas s'arrêter. Tu peux tout recommencer. Tu peux tout recommencer, repartir à zéro avec Jésus pour berger. Amen.